planète n'arrête pas de tourner parce que c'est le week-end. Restez informés en écoutant Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon et Pascal CV.
Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Au FM 93.
FM 93. Ça me parle. Ça me parle.
7h01, dimanche le 17 février 2019. Bonjour à tous, bienvenue au FM 93. On s'installe pour 3 heures de Que Québec se lève. Rassurez-vous, partez pas. Je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de la très, très royale majesté Pascal CV, mesdames, messieurs.
Bonjour, tu penses que tu fais fuir les gens?
Heureusement que tu es là pour garder tout le monde à l'écoute.
Hey, une chance.
Et notre ami Kevin Dupont, Kevin Bridge, qui est
on
là.
On l'a.
Kevin, commençons avec les nouvelles.
Oui, bien, une nouvelle un peu plus sérieuse, Paul, ce matin. Le service de police de la Ville de Québec qui est présentement en train d'enquêter sur une tentative de meurtre qui est survenue hier soir dans un appartement de la rue de la Concorde à Québec. Vers 21h30, le SPVQ a reçu plusieurs appels au 911 à l'effet qu'une femme de 49 ans était victime d'une agression dans le couloir d'un immeuble. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont localisé la victime au sol qui portait des blessures apparentes d'une agression par arme blanche. Un suspect de 17 ans a été arrêté par la suite dans un appartement. Il s'agit du fils de la victime. La femme a été transportée vers un centre hospitalier où l'on craint pour sa vie. Il y a des enquêteurs du module des crimes majeurs qui se sont rendus sur les lieux pour connaître les causes de l'agression qui restent encore inconnues. Femmes autochtones du Québec lancent une pétition pour réclamer l'abolition de la loi sur les Indiens, une loi archaïque, patriarcale et assimilationniste qui n'a pas plus raison d'être, selon l'organisation. En conférence de presse, la présidente des Femmes autochtones du Québec a rappelé que cette loi restreint toujours de manière disproportionnée la transmission du statut d'Indien par les femmes. Le Comité des droits de l'homme et des Nations unies a reproché au Canada d'enfreindre ses obligations internationales pour cette même raison le mois dernier. Et des dizaines de touristes québécois bloqués en Haïti en raison de violentes manifestations ont été accueillis par les câlins et les larmes de leurs proches soulagés lors de leur atterrissage à l'aéroport de Montréal hier. Un vol d'Air Transat transportant 150 passagers, dont les 113 touristes québécois qui avaient réservé le même type de forfait de vacances dans une station touristique par l'intermédiaire de la compagnie aérienne, ont atterri à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau hier vers 21h.
C'est une magnifique journée qui commence à Québec. Le soleil se lève. Il n'y a pas un nuage dans le ciel et ça sera ainsi toute la journée. Un peu friscounet ce matin, mais c'est vraiment une belle journée. Max de moins 8 au mercure aujourd'hui, très tolérable. La nuit prochaine, moins 19 avec des passages nuageux, mais ciel quand même généralement dégagé. Demain pour le retour au travail, moins 10. En fait, ça oscille entre moins 10 et moins 12 pour lundi, mardi et mercredi. Sous le soleil généralement, malgré quelques nuages. Et la seule bordée de neige de la semaine, la seule, dis-je bien, c'est 5 cm jeudi. On a un break, on a eu droit, on a acquis le droit à notre break de neige. Présentement, c'est moins 16 à Québec.
Dans la Ligue nationale de hockey, le Canadien de Montréal a subi une troisième défaite de suite en s'inclinant devant le Lightning de Tampa Bay 3-0. La meilleure équipe de la Ligue nationale a inscrit sa cinquième victoire d'affilée. Le Canadien va jouer son prochain match ce soir à Sunrise contre les Panthers de la Floride. Hockey junior, c'est une cinquième défaite de suite pour les Remparts de Québec. Ils se sont inclinés 4-2 contre le Drakkar de Bécomo. Les deux buts sont allés au dossier d'Édouard Saint-Laurent pour les hommes de Patrick Roy. Et enfin, au tennis, le favori local Diego Schwartzman a sauvé une balle de match avant de venir à bout du champion en titre Dominic Thiem et d'obtenir une place en finale de l'Omnium d'Argentine. En finale, Schwartzman va croiser le fer avec l'Italien Marco Cecchinato. Les deux vont viser un troisième titre en carrière.
Confidence pour confidence, chers collègues et chers auditeurs. Ce matin, j'aurais commencé l'émission à 8h. Pas de problème.
Ben voyons.
J'aurais fait, comme un de mes chums dit, j'aurais fait de la grosse matinée.
Mais pourtant, 7 heures, c'est quand même tard, là.
Ben oui, c'est ça. C'est parce que toi, tu te lèves à quoi? À 1h du matin.
Mais bon, pas à ce point-là, quand même.
Est-ce que tu dors, Pascal, des fois, la nuit?
Regarde mon visage, dis-moi si je dors.
Arrête donc. Tu es resplendissante, Pascal, ce matin.
Mais toi, t'as l'air fatigué un peu, quand même.
Écoute, vraiment, ce matin, ça me prend tout mon petit change pour me mettre les idées en place.
Les yeux dans le même trou.
Ah, écoute, là, j'ai les yeux qui regardent partout. Je suis pas capable de me les aligner devant
là,
les trous.
Je suis là, Paul. Je suis là, ici.
De toute façon, on fait de la radio. J'ai pas besoin de te voir. J'ai juste besoin de t'entendre. Mais ouais, c'est ça. Ce matin, c'est un de ces matins-là où je le sais pas trop. J'ai pas dormi beaucoup. Il faut dire que je garde le chat de ma belle-mère qui est partie en vacances. Alors, c'est bien le fun pour quand t'écoutes la télé le soir avec le chat sur ses cuisses.
Quand il est fatigué lui aussi, là.
C'est ça. Mais la nuit, un chat un chat, que ce soit le jour ou la nuit, là, ça dérange rien. La routine, c'est dormir, manger, dormir, manger, dormir, manger, litière, dormir, manger.
Et la nuit, réveiller.
Réveiller, dormir, manger, litière. Puis vient un moment où il a le goût de se faire flatter. Et là, je te jure, ma fille, il est prêt à tout. Il me grimpe dessus. Hier, en pleine nuit, à un moment donné, j'étais sûr, je venais de me faire crever un œil. La patte. Je te jure, c'est un chat, mais au comportement d'un chien, il donne la patte quand il veut se faire flatter. Il vient s'installer à côté puis il donne la patte.
Il est bien élevé.
Sauf que quand t'es couché, il te donne la patte d'en face. Là, cette nuit, à un moment donné, je dors, tu sais, évidemment, sur le dos. Puis à un moment donné, je sens quelque chose qui me grimpe dessus. J'hésite entre un cauchemar ou, ah ben non, c'est ça, c'est le chat, à moitié réveillé. Ça fait que, tu sais, une patte sur la jambe, une patte d'un parti, une patte sur le foie, une patte dans le trachée.
Mais voyons, il est gros chat, là, ça n'a pas de bon sens.
Il est obèse morbide. Si, il m'a, écoute, il m'a marché dans la gorge cette nuit, là. Ça réveille mal. Ah, ça réveille mal, là. Ça fait que là, depuis trois jours, j'ai vraiment, là, mon sommeil se fait rare.
T'es sûr que c'est pas volontaire, là?
C'est la paternité.
Oui, c'est ça. Ça rentre dedans.
C'est ma nouvelle paternité.
Oh, mais tu sais, Paul, pourquoi c'est important de bien dormir en plus?
Ben, en tout cas, j'imagine qu'il faut bien dormir, mais je suis pas très bon là-dedans.
OK, bon, on va te l'apprendre.
C'est que de ça, là.
On va se coucher niaiseux pareil.
C'est que de ça.
Mais un peu moins.
Ah, c'est bien bon. Écoute, on va se coucher, moi, niaiseux.
Tu m'as tendu une perche, Paul. Écoute, c'est un article qui est sorti dans la presse le 16 février, soit hier, à 13h17 exactement. C'est une étude qui prouve que maintenant, là, c'est prouvé. Oui, on s'en doutait, mais le sommeil aide à beaucoup plus que juste avoir une bonne journée le lendemain. Oui. C'est Jean-Benoît Legault qui l'a écrit de la presse canadienne. On dit que grand-maman avait raison, on sent toujours beaucoup mieux après une bonne nuit de sommeil. Mais c'est vrai parce que les cellules, pendant que tu dors, sont trois fois plus actives et trois fois plus performantes. Par exemple, t'as une infection, t'as du stress, écoute, une maladie immunitaire quelconque. Il faut savoir que c'est la capacité de certaines cellules immunitaires d'attaquer les cibles sont exactement augmentées quand tu dors.
Ah oui, est-ce que ça dit dans l'article, par exemple, si je dors, mettons, 2-3 heures par nuit la fin de semaine avant mes émissions, puis 10 heures la semaine quand je travaille pas. Est-ce que ça dit si c'est bon?
C'est pas nécessairement bon. Faudrait plus que tu fasses des nuits là, consécutives, 8 heures consécutives pour t'aider. Tandis que le manque de sommeil, là, comme
ouais, ça marche pas la moyenne, Paul, de dire je dors plus la semaine, moins la fin de semaine. Je pense c'est pas.
Ben, tu peux bien parler. Kevin travaille ici le matin, la fin de semaine, et va à l'université la semaine.
Oui.
Avec les implications étudiantes, puis ça doit être quand même assez. Toi, des nuits de 8 heures, je sais pas, ça arrive-tu?
Ah, mon sommeil passe sur la rive sud. Oh ouais, je dors jamais.
Mais ça, regarde, Kevin, il s'assoit devant la fenêtre un petit 15 minutes la nuit puis il regarde passer son sommeil.
C'est ça. Hey, bonne route, là.
L'a encore manqué. Mais ça, les gars, c'est pas bon pour vous parce que le manque de sommeil, ben, ça nuit à leur efficacité à ces cellules-là. Tandis que le sommeil aide à combattre bon, les infections, le stress chronique. Ça vous permet justement d'avoir une meilleure santé totale.
Ah,
total. Ouais. Fait que, admettons que vous faites opérer pour je sais pas quoi, par exemple. Moi, cette semaine, les dents de sagesse, OK?
Ah oui?
Oui, je faisais à la blague, je vais aller faire une belle sieste, toi, avant le souper.
Parce tu t'en es pas vanté de ça?
Non, ben c'est pas très beau, hein?
Mais ça répète assez drôle, par exemple, un petit Facebook Live.
Ben oui, c'est sûr que j'aurais accepté, ben voyons. Mais je me dis, je vais faire une petite sieste à la blague, puis cet article-là, sans rire, mon copain me l'envoie en disant, ben oui, mais c'était vrai, finalement. Parce que tout ce qui est cicatrice ou va permettre de cicatriser mieux avec de bonnes nuits de sommeil, les gars.
Ben, Pascal, on va se coucher moins niaiseux. Objectif réussi. on va se plonger dans les nouvelles du jour, hein, si tu veux bien. La nouvelle qui a retenu notre attention dans les principaux quotidiens. J'ai envie de commencer avec la manifestation qu'il y avait hier à Montréal contre le registre des armes à feu. Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que il y a certains arguments à travers lesquels je veux repasser parce que moi, ce débat-là me fascine, celui sur les armes à feu. On est à un petit peu plus de deux semaines, mais grosso modo deux semaines là, après la date butoir, hein, la date butoir de l'échéance pour enregistrer les armes d'épaule. Il y a encore des groupes qui voudraient l'abolition du fameux registre.
Ouais.
Des groupes qu'on connaît, là. Il y a le groupe des gens qui disent qu'on devrait plutôt investir en santé mentale. T'as tous contre un registre des armes. Puis t'as Police se souvient qui sont pour le registre. Puis là, ben, ça milite, ça débat. Bon. Et je regardais un article de la presse hier, écrit par la presse canadienne. Et c'est fou parce qu'il y a encore des arguments dans les deux camps que je trouve qui ont absolument du sens. Puis malgré tout ce qu'on a dit par rapport au registre, je sais encore pas trop comment me positionner là-dedans. Parce que hier, c'est le salon plein air, chasse et pêche, camping, roulotte, patente à gosse, là, à Montréal.
Ça a l'air d'être dans ton clan, ça.
Ouais, oui.
Patente à gosse.
J'adore le camping, cela dit.
T'aimes la bière de camping?
Non, même pas. Non, j'aime mieux la bière, j'aime mieux la bonne bière que la bière de camping. Pour moi, la bière de camping, c'est, tu sais, bonne petite Bud Light dans chaloupe.
Une Corona avec une lime dedans.
Oh, très bien. Et bon, bref, il y avait une manifestation hier. Ils ont revêtu un gilet orange, tu sais, pour un petit clin d'œil au gilet jaune. Ça, c'est une chose. Mais des arguments qu'on entend. D'abord, il y a Michel Therrien, qui n'est pas l'ancien coach des Canadiens de Montréal, mais un des organisateurs de la manifestation d'hier.
Oui.
Qui dit que le processus qui est déjà en place pour se porter acquéreur d'une arme, soit le fait de devoir passer un cours de maniement puis l'obtention d'un permis, faut que tu le réussisses, le cours, là. Lui, il dit que c'est suffisant. Bon, ben premier argument, sais-tu quoi, Pascal? Je trouve que en théorie, c'est pas faux. Tu passes un cours pour... faut que tu passes un permis, puis tu passes un cours pour manier l'arme, l'utiliser, la ranger, l'entretenir, tu vois. A priori, c'est vrai que j'ai tendance à être d'accord avec lui. Guy Morin, de Tous un registre contre des armes à feu, l'un des célèbres porte-parole de ce mouvement-là, il dit « La lourdeur administrative rebute la relève et même les chasseurs d'expérience. » Et il dit « C'est très difficile à comprendre pour les gens qui restent plus dans les villes et qui n'ont pas la culture de la chasse. » Encore une fois, je suis obligé de te dire, plutôt tendance à être d'accord avec M. Morin.
Oui.
Tu sais, moi, je suis pas dans la guerre, hein, Québec, Montréal, Montréal, les régions. Mais la réalité, c'est que une famille au Saguenay ou sur la Côte-Nord ou en Beauce ou dans Portneuf, puis un père qui amène son fils à la chasse puis qui lui montre comment ça fonctionne, puis c'est vrai que c'est plus fréquent qu'à Montréal.
Ben certainement, là. Il y a de la place aussi, puis des fois tu vas juste dans ta cour arrière.
Tu sais, c'est vrai que c'est juste plus fréquent, puis c'est vrai que ça se peut qu'il y ait une incompréhension des gens de la ville à l'égard de cette tradition-là de la chasse, ce loisir-là de la chasse, qui, qu'on le veuille ou non, se passe plus en région. Le Therrien, qui est à la base du rassemblement d'hier, dit à la base, les gestes qui sont liés à la naissance de ce registre-là, ce sont des homicides commis par des individus qui étaient en proie à des problèmes sévères de santé mentale. C'est en ce sens-là qu'il faut qu'il y ait des programmes de dépistage et d'intervention. D'accord, pas d'accord. Je t'explique pourquoi. C'est-à-dire, on peut pas être contre la vertu, là.
Ouais,
c'est sûr qu'il devrait effectivement y avoir des programmes de prévention. Ce que j'aimerais entendre pour qu'on amène ce débat plus loin, parce que là, on est rendu dans le débat du registre à aller voir il y a combien d'armes d'enregistrer depuis 2 semaines, là, puis à essayer de l'amener ailleurs. Comment, où est-ce qu'on investit exactement? Dans des centres de services, par exemple, pour hommes aux prises avec des problèmes de violence, dans des centres de services pour, tu sais, on investit où concrètement, là? L'argent du registre, par exemple, là, où est-ce qu'on le met pour concrètement diminuer les crimes? Parce que le but, c'est de diminuer le nombre d'homicides, de diminuer le nombre de crimes qui sont commis avec des armes à feu au final. Puis on questionne l'efficacité du registre. Ben, moi aussi, je la questionne l'efficacité du registre, mais les mesures visant à aider les personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, ça aussi, je demande à ce qu'on me démontre que ça va fonctionner, là. Ensuite, t'as Nathalie Provost, qui est une survivante de la tuerie de Polytechnique, et qui fait partie du groupe Police Souviens, là. Et Police Souviens cite des chiffres qui sont fournis par la Sûreté du Québec. Et selon ces chiffres-là, on dit que près de 80% des armes qui sont saisies à la suite d'un crime ou d'un suicide entre 91 et 2011 étaient des armes d'épaule. Mm-hmm. Là, c'est des gros chiffres, mais écoutez comme il faut parce qu'il y a quelque chose pour moi qui se peut pas là-dedans. 80% des armes qui ont été saisies à la suite d'un crime ou d'un suicide entre 91 et 2011 étaient des armes d'épaule. OK. Mais d'abord, on met dans la même catégorie un crime et une personne qui s'enlève la vie, OK? Chaque suicide est un suicide de trop, est une personne qui est décédée de trop, qu'il faut absolument qu'on essaie de sauver. Moi, je suis de cette école de pensée-là. Mais pour moi, c'est quand même deux gestes qui sont différents, là. Même si c'est perpétré avec une arme d'épaule.
Oui.
L'autre, c'est est-ce que le registre permet de sauver ces vies-là, oui ou non? C'est une question à laquelle on n'a pas encore répondu, finalement. Tu sais, quand on me dit que les autorités, puis c'est un autre des arguments de Mme Provost, elle dit lorsque les policiers sont alertés quant à des cas de violence conjugale ou de détresse psychologique, ils peuvent procéder au retrait préventif des armes. OK, je suis sensible à ça. Dans un cas de violence conjugale, effectivement, mon gros problème avec ça, c'est que les corps policiers le discours officiel des corps policiers, c'est ça. Tu sais, c'est de dire, effectivement, voici le, comment on va l'utiliser. Puis quand tu parles off-mic, en bon français, quand tu parles donc à micro fermé avec des policiers, ou avec des policiers à la retraite qui ont plus l'obligation de dire comme leur organisation, ils disent non, ça sert à rien. Pas tous, mais pour la plupart à qui on a parlé, je suis convaincu que tu as fait le même exercice que moi, Pascal. On a parlé à des connaissances qu'on a dans différents corps de police, puis à micro fermé, ils nous disent tous, l'utilité, je suis pas si sûr que ça, mais officiellement, il faut que je te dise que oui, dans un cas comme ci ou comme ça, ça peut être utile.
Ben, tu sais, c'est difficile de se dire, ah, OK, moi, je suis contre le fait qu'on va recenser qui a une arme ici au Québec, peu importe si c'est un passé criminel ou pas. C'est difficile d'être contre ça.
Ouais.
Mais est-ce qu'on investit trop d'argent, de temps dans un registre qui prend de l'argent et du temps au lieu d'en mettre où on doit le faire? Par exemple, dans la prévention du suicide ou encore dans les soins psychologiques et psychiatriques pour certaines personnes.
Puis la prochaine affaire qu'il va falloir savoir, puis c'est comme ça que se termine l'article de la presse canadienne, là, c'est il y a combien d'armes qui sont enregistrées aujourd'hui, là? Ou disons le 29, ben il n'y a pas de 29 février, ça tombe mal, là. Ça va pas bien, mais disons le 1er mars, là.
Oui.
Le 1er mars, il y a combien d'armes? Ça fera un mois que le délai d'un an finalement est passé, puisque le 29 janvier, là, ça marquait la fin de la première année d'existence de la loi, là. Bref, le 1er mars, il y en a combien? Là? On est-tu à 90 % des armes enregistrées? Ça serait étonnant parce que les jours avant le 29, on était plus autour de 20
%. C'est ça, là, on est très loin encore.
Ça fait qu'on est-tu à 25 %, 30 %? Si c'est le cas, on a un problème. Là, on peut pas se mettre la tête dans le sable et penser que bravo, yes sir, le Québec est protégé parce qu'il y a un registre si les armes sont pas enregistrées. Et rappelle-toi que je t'ai dit que je voulais te parler de ça pour deux raisons. La deuxième, c'est Journal de Québec, page 21, puis je termine là-dessus, Pascal. Si vous avez le Journal de Québec chez vous, sinon, allez chercher au dépanneur, c'est extraordinaire. Je sais pas s'ils s'en sont rendus compte. C'est une situation où je me demande, ils ont-tu fait exprès? T'as deux articles, un à côté de l'autre, 200 personnes dans la rue contre le registre, avec un texte, pas de photo. Puis à droite, t'as un micro-texte, avec une super grosse photo, des schtroumpfs partout. C'est genre un record mondial du plus grand rassemblement de schtroumpfs qui a été battu hier au sud de l'Allemagne. Puis quand tu regardes la page du journal, c'est écrit 200 personnes dans la rue contre le registre. Puis la photo qui l'accompagne, c'est des bonnes femmes déguisées en schtroumpfettes.
Une gang de schtroumpfs.
Hey, c'est de ridicule, là. Ça, j'hallucinais. Ça se demandait si on fait exprès, tu sais, ou si c'est vraiment... C'est vraiment un concours de circonstances. Là, mais
j'espère que c'est parce que le texte n'était pas fini quand ils l'ont envoyé la majorité à la presse, puis ça a été ajouté à la fin. Ah, là. Ça peut arriver. J'espère.
Tous les gens qui vont lire le Journal de Québec ce matin, si vous ne l'avez pas déjà lu, là, vous allez en page 21, il va y avoir une microseconde, vous allez dire, ben voyons donc.
C'est presque un texte d'opinion.
Ils ont-tu manifesté à bien, je trouve?
Tu comprends-tu? C'est presque un texte d'opinion. Le journaliste a dit, on va mettre ça à côté, je vais pouvoir mettre mon opinion.
C'est un éditorial.
C'est ça.
Pascal, j'ai fait une longue parenthèse pour ma nouvelle,
oui.
Mais tu veux me parler de l'Église catholique qui, à la grande surprise, croule encore sous les scandales.
Ah, Seigneur, je vais y aller vite parce que c'est une histoire, oui, c'est la première fois par contre, mais c'est une histoire qu'on a entendue plus d'une fois. Et là, cette fois-ci, c'est un ex-cardinal qui est défroqué pour agression sexuelle. C'est le pape François qui a défroqué cet ex-cardinal-là, qui est américain, il s'appelle Theodore McCarrick, 88 ans. Accusé d'abus sexuels, il y a près d'un demi-siècle que ça s'est passé. C'est une première historique, par contre, qui conclut une spectaculaire descente aux enfers d'un prélat jadis très influent. Là. C'est la première fois depuis la longue histoire là, de l'Église catholique qu'un cardinal est défroqué pour des motifs d'abus sexuel, c'est ce qu'on lit dans le Journal de Québec ce matin. Et on dit aussi que c'est un signal clair, on dit que c'est terminé, on ne veut plus avoir affaire avec des histoires d'abus sexuels et ça ne sera plus toléré au sein de l'Église catholique. C'est un peu bizarre de dire que ça ne sera plus toléré. Ça, c'est pas le journal, là. C'est vraiment les instances. C'est le pape François qui a envoyé un signal clair pour pas que ça arrive et que ça ne sera plus toléré. Je veux dire, à quel moment ça aurait dû être toléré?
Ouais, c'est ça, c'était toléré jusqu'à la semaine passée, mais là...
C'est quoi ça? Là? Mais au moins, on a pris quand même les gestes puis on est allé de front. Puis, sais-tu, je trouve que ça va dans le courant qu'on vit actuellement. C'est un drôle de problème de société. Je sais pas si c'est parce que je suis trop jeune, mais on en voit de plus en plus des choses comme ça qui sortent, pas juste au sein de l'Église catholique. Juste dans le journal ce matin, on a peut-être trois, là. On parle aussi d'un ex-comédien qui est coupable d'attouchement.
Oui, oui.
Il s'appelle Philippe Carbonneau. On l'a vu dans Annie et ses hommes, Yamaska, Virginie. Peut-être que
des émissions, ça, des émissions plus célèbres que lui, honnêtement. Là, j'ai vu la nouvelle, je reconnaissais pas sa face, ça me disait rien. Là,
certainement
c'est pas...
plus célèbre que lui. Ouais, ouais. Mais chose certaine, là, il avait décidé de se se recycler en professeur de piano, puis il a plaidé coupable d'attouchement sexuel sur deux mineurs de moins de 16 ans à qui donnait des leçons de piano. Puis même qu'on lit là, que les victimes disent qu'ils se sentaient et se régalaient de moi. C'est le terme qu'ils ont utilisé.
Oh mon Dieu! Bah,
puis tu sais, je peux pas passer sous silence aussi le photographe là, de Québec qui a eu une longue carrière à prendre en photo les grandes vedettes, Roland Lachance.
Roland, oui.
Qui a maintenant 86 ans, qui lui aussi est dans la mire de la justice pour attendre à la pudeur, acte grossière d'indécence, agression sexuelle. Ça déborde en fin de semaine.
Puis, pour en revenir à l'Église catholique, il y a une chronique intéressante de Richard Martineau ce matin dans le Journal de Québec où il fait la comparaison entre l'une des grandes entreprises du web, là, genre Amazon, Google, Facebook et compagnie. Puis il dit, imaginez si c'était une de ces entreprises-là qui était aux prises avec des scandales sexuels, puis d'agressions sexuelles, puis de l'ampleur de l'Église catholique, qu'est-ce que ça serait, tu sais?
Je pense qu'il y aurait un boycott, moi.
Ben, tu penses? Écoute, puis il sort la liste complète là, de lieux où il y a eu des scandales. Il prend la liste à la fin du film Spotlight, là, où il y a une espèce d'image d'une carte du monde. Puis là, il y a des trucs qui apparaissent, des noms de villes qui apparaissent où il y a eu des scandales sexuels de l'Église dont l'Église catholique était responsable. Puis bon, évidemment, tu te rends compte que à la fin de l'exercice, la carte est bien pleine.
Oui.
Puis il fait aussi le comparatif avec Juste pour rire, tu sais, il dit regardez comment l'entreprise Juste pour rire a failli s'écrouler, puis est pas non plus encore remis tout ça là, mais a vraiment failli complètement s'écrouler
et
disparaître pour des allégations puis des accusations criminelles là.
Sur une personne.
C'est ça. Tu sais, d'un qui était bon, évidemment, c'était le fondateur là, mais je veux dire, ça reste que c'est pas du même ordre. Le problème, c'est que les entreprises privées, puis certains vont dire que c'est pas vrai avec les gens qui achètent des iPhones puis qui ne jouent que par Apple, là. Mais l'affaire avec l'Église catholique, c'est que, bon, à part, évidemment, le fait que c'est un pan de l'histoire énormissime, là, on s'entend, mais ça démontre, pour moi, ça démontre à quel point quand on croit en quelque chose, là, que ce soit rationnel ou pas, finalement, mais quand on croit en une valeur, en une personne, en tu sais, on est prêt là à oublier n'importe quoi. On est prêt à fermer les yeux sur tellement de choses. Ouais. Puis je me pense pas meilleur que les autres. Je sais que je suis pareil là. Quand tu penses qu'il y a une chose qui est meilleure qu'une autre, là, mon Dieu, qu'il y a des affaires que tu vois pas.
Puis c'est à se demander si on devrait pas s'adapter à l'année 2019 qu'on vit en ce moment. Ce serait pas bien de permettre le mariage des prêtres, leur permettre une certaine vie de relation avec une femme là, ou un homme. Là. Moi, je sais que c'est contre leur vertu à eux, mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent puis qu'ils s'adaptent en 2019 à nos mœurs maintenant.
Oui, bon flash. Puis, dernière petite nouvelle avant d'aller à la pause, je veux te parler de ce fameux déversement d'eau usée qui va avoir... Ça commence ce soir ou dans la nuit prochaine. Petit déversement d'eau usée à la hauteur du pont La Porte de 125 millions de litres d'eau. Petit déversement de rien là pour des...
Ce que tu veux dans ta cour, finalement.
Là. Ouais, c'est ça. Petit 125 millions de litres d'eau. Là. un rien du tout. C'est à partir de demain parce qu'il y a des travaux majeurs qui sont réalisés sur une conduite sanitaire. Alors, ça va couler sur environ 120 heures. Alors, les eaux usées vont se déverser dans le fleuve pendant environ 120 heures.
Pour tous les wéreux, ceux que ça leur tente de voir une beauté de la nature aussi, déplacez-vous, allez voir tout ce qui sera déversé.
Et l'affaire, c'est que quand j'ai pensé à ça, j'en ai discuté avec notre collègue Jeff Blanchette. Et parce que vendredi, la nouvelle est sortie, puis on en discutait dans le bureau. Puis c'est drôle parce que les deux, on a pensé à la même affaire. Je me suis pas demandé, quel sera l'impact sur les écosystèmes et les planctons. Peut-être j'aurais dû, mais c'est pas ça qu'on s'est dit. On s'est pas dit non plus, est-ce qu'on va voir la traînée d'eau usée si on filme à vol d'oiseau avec un drone? On aurait dû se demander ça, mais comme on a l'esprit un peu plus tordu, on s'est dit, la première affaire à laquelle j'ai pensé, quand ils ont dit on déverse 125 millions de litres d'eau à partir du pont La Porte, machin, la première affaire qu'on s'est dit, c'est est-ce que le village nordique est au bassin Louise offre encore l'option de déguster votre poisson après s'être adonné à une petite séance de pêche sur la glace en famille?
Menoum, de bonnes épices, c'est un bon remontant, une marinade.
Je vous rappelle, ils déversent à partir du pont La Porte, le village nordique et dans le bassin Louise. On s'arrête pour une courte pause, on revient.